Nous sommes à 10 jours de l'élection présidentielle. 11 candidats sont qualifiés, vous le savez. Nous les recevrons tous avant le premier tour avec Anne-Claire Coudray sur ce plateau élyséen. Notre quatrième invitée est Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Alors vous le savez, notre première question est la même pour tous nos invités. Vous, présidente, quel serait votre premier geste symbolique ?
D'abord, je n'imagine pas arriver au pouvoir seule. Hein, si j'arrivais au pouvoir, si mes idées arrivaient au pouvoir, cela signifierait en fait un bouleversement social. Cela voudrait dire que des millions de femmes et hommes ont décidé de se battre et de prendre leur sort en main.
Alors, vous ne seriez pas seule dans ce bureau, c'est ce que vous voulez.
Voilà. Et dans ce contexte-là, la mesure symbolique que je proposerais, ce serait de rendre l'Élysée à la population, tout simplement, c'est-à-dire de transformer l'Élysée en salle de réunion, en maison des associations, voilà. Et ça veut dire qu'il y aurait un accès libre, gratuit, bien sûr, à tous, et qu'ils pourraient y compris venir voir les réunions des responsables de l'État.
Parce que c'est un peu un courant d'air. Vous travailleriez sous le regard ou le contrôle des électeurs et des citoyens.
Je pense que ça serait normal.
C'est l'open space à l'Élysée un peu.
Oui, bah écoutez, je pense que ce serait normal. Et je crois aussi que toutes ces dorures, ce clinquant, bon, ce qu'on appelle les ors de la République, hein, avec les rituels, c'est aussi beaucoup pour impressionner, justement, la population travailleuse.
Pour solenniser aussi, sans
oui,
doute, l'idée de République.
Pour solenniser, mais aussi pour faire croire que le pouvoir doit forcément être au-dessus de la population. Et c'est donc plus qu'un symbole, en fait. C'est aussi dire, hein, rendre l'Élysée à la population, c'est aussi dire que le nouveau pouvoir, eh bien, il s'appuierait sur la population travailleuse pour imposer les mesures que je mets en avant aujourd'hui dans cette campagne.
Alors, on va revenir sur votre programme. Vous êtes candidate à la présidence pour la deuxième fois. Et on va voir d'où vous venez et quel est votre parcours avec Christophe Jacubizine. Regardez.
Avant de vouloir être présidente de la République, Nathalie Arthaud travaille. Elle est professeure d'économie et de gestion dans un lycée de la région parisienne et continue à assurer pendant la campagne 2 matinées de cours par semaine. Elle apprend à ses élèves les rouages d'un système capitaliste qu'elle combat depuis toujours, peut-être pour faire naître des vocations, comme elle qui à 18 ans adhère à Lutte ouvrière pour lutter contre les injustices, le racisme et les famines dans le monde. Elle décroche un premier mandat de conseillère municipale à Vaux-en-Velin sur une liste du Parti communiste. Mais c'est Arlette Laguiller, dont elle est le porte-parole en 2007, qui la met sur l'orbite présidentielle un an plus tard. En 2012, elle n'obtient que 0,56% des voix, 10 fois moins qu'Arlette Laguiller 10 ans plus tôt. Ce qui importe, c'est que le peuple finisse par descendre dans la rue. S'il faut attendre longtemps, ça ne me dérange pas. Je suis un chaînon, dit-elle.
On vient d'entendre Christophe Jacubizine évoquer votre métier, puisque vous n'êtes pas une professionnelle à plein temps de la politique. Vous enseignez à des élèves de terminale en région parisienne. Est-ce que vous arrivez à leur enseigner l'économie, la gestion, ce sont vos matières, en laissant vos convictions politiques à la porte du lycée ?
Exactement comme vous, quand vous faites votre métier de journaliste. C'est-à-dire que...
Mais voilà, nous ne sommes pas militants à côté.
Dans mais vie. Vous avez quand même des idées politiques. Vous avez même peut-être, je ne sais pas, une carte de syndicat. Vous avez, et vous allez voter.
Donc
vous
avez aussi vos idées. Mais on ne se présente pas la
République, hein. Oui, mais vous avez vos idées. Donc vous n'êtes pas neutre non plus. Simplement, je fais mon travail, voilà. Je respecte les programmes, évidemment. Et puis vous savez, quand même, l'enseignement, il a ça... C'est quand même son avantage, c'est aussi de faire réfléchir, hein, de susciter aussi l'esprit critique. Alors, écoutez-moi, avec mon engagement qui est public, oui, je crois que ça attise la curiosité, la réflexion des jeunes, et je pense que c'est plutôt un atout pour eux.
Alors, vous êtes l'héritière de Arlette Laguiller, qui a été candidate 6 fois à la présidentielle. Au moment de vous transmettre le flambeau, elle vous a donné quel conseil ?
Elle m'a dit, quand tu es sur les plateaux de télé, pense à ceux qui regardent derrière leur écran, voilà. Pense aux travailleurs, aux nôtres, aux ouvriers, aux chômeurs, aux retraités et parle-leur.
Alors, intéressons-nous à présent assez précisément et très concrètement à votre programme. Voyons à quoi ressemblerait la France en 2022 au terme de votre quinquennat si vous êtes élu.
En 2022, dans la France de Nathalie Arthaud, il n'y aurait plus de président de la République. À la tête de l'État, un collège d'élus, payé environ 2000 euros par mois et révocable à tout moment. Grâce à la révolution prolétarienne, les ouvriers, les salariés auraient pris le pouvoir dans les entreprises. Ils auraient accès à tous les documents comptables et pourraient s'opposer au licenciement. Si le programme de Nathalie Arthaud était appliqué, chaque Français retraité ou salarié toucherait au minimum 1800 euros net par mois. Dès son arrivée au pouvoir, Nathalie Arthaud promet d'augmenter les salaires et les pensions de 300 euros tout en abaissant la durée hebdomadaire du travail à 32 heures par semaine. Pour financer ces dépenses nouvelles, la fiscalité serait modifiée en profondeur. Fini la TVA jugée trop injuste, elle serait remplacée par un impôt sur les profits du capital. Enfin, l'immigration, tous les sans-papiers seraient régularisés et la France, comme le souhaite Nathalie Arthaud, accueillerait les migrants à bras ouverts.
Alors on va revenir sur votre mesure phare, l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, mais aussi dans les autres, celles qui perdent de l'argent.
Je pense que le chômage, c'est effectivement le fléau qui mine la société de l'intérieur. Elle pèse évidemment sur ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont contraints à l'inactivité, mais elle pèse aussi sur les salariés, hein, à qui finalement on fait planer cette épée de Damoclès en permanence. Et donc je pense que oui, il faut des mesures... il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Et la première des choses, c'est d'arrêter l'hémorragie, parce que ça continue, les licenciements. Regardez, Whirlpool va fermer son usine. C'est 250 salariés, mais aussi autant d'intérimaires, aussi autant de sous-traitants. Donc, c'est la BNP Paribas. Alors, elle a fait des super profits. Elle supprime quand même des emplois. C'est vrai chez Sanofi, c'est vrai chez PSA. C'est vrai dans un grand nombre de grands groupes. Et c'est vrai aussi dans des entreprises plus petites, qui dépendent souvent de ces grands groupes. Moi, je pense à GMS Industries, par exemple, qui travaille pour Peugeot, pour Renault, et qui aujourd'hui se voit dans des difficultés réelles, parce que tout simplement, Peugeot et Renault ont décidé d'arrêter leurs commandes. Donc moi, je suis effectivement pour qu'y compris les entreprises moyennes qui ont des difficultés, eh bien qu'on puisse voir d'où cela vient, ces difficultés. Parce que souvent, c'est en fait le résultat de relations de domination, d'écrasement de grands groupes qui règnent sur l'économie et sur la société. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une interdiction de ces licenciements, qu'on préserve les emplois. Et puis, il faut aller bien sûr plus loin, parce qu'il y a 6 millions de femmes et d'hommes qui n'ont pas de travail. Donc il faut répartir le travail entre tous, créer massivement des emplois aussi dans la fonction publique, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale.
Nathalie Arthaud, vous voulez également exproprier les banques, nationaliser les usines, les grandes chaînes de distribution. Quelles entreprises, si vous étiez présidente, pourraient rester privées ? Le boucher charcutier, le plombier, l'entreprise familiale, la boulangerie ?
Mais bien sûr, je fais des différences.
Quelle est la limite ? Au bout de combien de salariés on est nationalisé ?
D'abord, pour moi, le programme que je mets en avant sont des objectifs de lutte. Les 1800 euros nets comme par mois pour le SMIC, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail, je sais qu'il faudra l'arracher. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands groupes industriels et financiers ont la politique exactement contraire. On charge de plus en plus de travail ceux qui sont en emploi. Alors on fait le travail de 2, de 3, il faut courir du matin au soir. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé. Et puis les autres, on les met sur le carreau. Donc il faut effectivement imposer un bras de fer. C'est un combat, c'est un rapport de force.
Y compris chez le plombier du coin de la rue.
Mais c'est pas le plombier du coin de la rue qui va licencier. D'abord, souvent, le plombier du coin de la rue travaille tout seul ou avec un autre salarié. Il en a besoin. Ceux qui sont responsables, encore une fois, de ces licenciements, de ces pertes d'emploi, ce sont les gros qui les commandent. Et effectivement, par leur rapacité, parce qu'en réalité, mais même Whirlpool, c'est un exemple quand même très révélateur. Whirlpool ferme son usine à Amiens pour faire plus de profit en exploitant davantage les ouvriers en Pologne. Et c'est un groupe qui est richissime, qui est pas loin du milliard de bénéfices réalisés l'année dernière. Alors, donc voilà, je fais une différence entre les petits et les grands, bien sûr.
Pardon, justement, on parlait des petits. Nous sommes allés voir un artisan boulanger à Paris qui a une question à vous poser. Écoutez-le.
Bradley Lafont, 30 ans, boulanger-pâtissier à Paris. Madame Arthaud, si vous êtes élue à la présidence de la République, vous proposez une augmentation du SMIC. Avec quel argent ? Le nôtre, celui des petites entreprises ? Comment souhaitez-vous que nous réussissions si de votre côté, vous n'êtes pas prête à abaisser les charges ? Notre plus gros problème aujourd'hui est le recrutement. Nous avons du mal à recruter des ouvriers, boulangers, pâtissiers ou vendeurs en leur proposant des rémunérations qui sont assez proches du SMIC. Pourquoi ? Car ils préfèrent, pour la plupart, rester chez eux à toucher des allocations qui sont finalement assez proches de ce que nous, on peut leur proposer. Que proposez-vous finalement pour les petites entreprises comme les nôtres ? Pour les aider dans leur recrutement.
Votre réponse ?
Évidemment, ce n'est pas en prenant sur l'argent des boulangers, du boucher du coin, etc. Évidemment, non. Mais vous savez, y compris le boulanger, s'il avait effectivement des clients un peu plus riche, avec un portefeuille un peu plus garni, eh bien peut-être qu'il vendrait un petit peu plus de pâtisseries, peut-être qu'il vendrait un peu plus de gâteaux, peut-être que... Parce que c'est ça qui pèse d'abord et avant tout sur les petits commerçants et artisans, c'est le fait qu'aujourd'hui, leur clientèle est devenue pauvre, et en fait ne peut plus... y compris dépenser comme ils voudraient, se faire des petits plaisirs. On ne peut plus. Combien aujourd'hui d'ouvriers qui sont payés au SMIC, 1150 euros, mais ne peuvent pas même se payer de la viande comme ils le voudraient ou un bout de fromage comme ils le voudraient. C'est ça la réalité. C'est une réalité pour aussi les retraités qui ont des fois bossé toute leur vie et qui ont droit à une retraite de 800, 900 euros, 1000 euros, et qui doivent compter le moindre euro. Mais je peux vous dire que voilà, relever effectivement le niveau de vie de tout cela, et bien sûr qu'ils seraient un des premiers gagnants en réalité.
Nathalie Arthaud, vous mentionnez également un problème très important qui concerne les Français dans votre programme, la santé. Vous voulez la santé gratuite pour tous. Comment faites-vous concrètement contre les déserts médicaux? Comment allez-vous contraindre les médecins à s'installer là où ils ne veulent pas aller?
Moi, je pense qu'il faudrait effectivement proposer plus de maisons de santé, de travail collectif. On sait que beaucoup de médecins sont prêts à s'inscrire dans ces dispositifs beaucoup plus, justement, collectifs, où ils se retrouveront pas à faire des heures, hein, des semaines de 70 heures sur les routes de campagne. Donc, il faut effectivement leur proposer cela. Quant à la santé, moi, ce qui me choque, c'est que justement, on nous explique qu'il faut consommer moins de médicaments, qu'il faut faire des économies sur les hôpitaux. Et effectivement, il y a des lits qui sont fermés. Et ça pose des graves problèmes à ceux qui sont dépendants hein, de l'hôpital public pour se soigner. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que la santé, c'est une... aujourd'hui, c'est un secteur qui permet à des groupes capitalistes de prospérer. Je pense à Sanofi, qui réalise 7 milliards de bénéfices par an, chaque année.
Hein, et, en développant des molécules qui sauvent des vies aussi.
Et en prenant aussi... une grosse part, justement, pour ces grands actionnaires. Et moi, c'est ce que je conteste. Je conteste que la santé, que l'éducation, que le transport deviennent comme ça hein, des secteurs où forcément, il faut faire du profit pour une minorité capitaliste. Vous savez, sur Sanofi, vous me dites que ça développe des molécules.
Non, c'est un
d'accord.
Fait.
Mais vous voyez, par exemple, en 2016, Sanofi a distribué 6,7 milliards aux grands actionnaires. Aux actionnaires, 6,7 milliards. Eh bien, avec ces 6,7 milliards, vous savez qu'on aurait pu doubler l'effectif de Sanofi, donc l'effectif de chercheurs aussi chez Sanofi.
Alors, ces idées révolutionnaires, elles séduisent dans cette campagne, notamment à travers la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En quoi il est différent de vous ?
Eh bien, moi, je ne fais pas de promesses électorales. Voilà, je pense que des promesses, on en a soupé. Voilà, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le premier à expliquer qu'une fois au pouvoir, il allait lutter contre la finance. On se souvient quand même de Hollande, le discours du Bourget en 2012. Il avait fait un beau discours, des belles promesses. Même Hollande, vous vous souvenez, pendant toute cette campagne 2012, on avait discuté beaucoup de cette idée de taxer les plus riches à 75%.
Ce qu'il a fait. Hein.
Et finalement, ça n'est pas fait parce qu'il y a eu effectivement censure du Conseil constitutionnel. Et au bout du compte, c'est pas fait. Donc, ces promesses, vous savez, depuis Mitterrand, Jospin et Hollande, je crois que les classes populaires ont vu hein, qu'il fallait garder beaucoup de distance. Et moi, je crois qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, même bien intentionné, arrivé dans ce bureau de l'Élysée, eh bien, il se retrouverait confronté à ce grand capital, à ces grands groupes capitalistes qui font la pluie et le beau temps. Moi, j'ai aussi en tête ce qui s'est passé avec Hollande face à Florange. Hollande ne souhaitait pas la fermeture de Florange. Et pourtant, il a suffi que M. Mittal, le PDG d'Arcelor, vienne dans son bureau et lui dise « Oh, nous, hein, on fait travailler 20 000 salariés, alors vous ne nous embêtez pas, on fait ce qu'on veut » pour que Hollande, finalement, laisse tomber. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon se confrontera, comme les autres, au mur de l'argent. Et à chaque fois, c'est une fois arrivé au pouvoir qu'il redécoupe ce mur de l'argent. Mais il faut savoir, il existe. Et ce mur de l'argent, il faut le renverser. Et seules les luttes sociales, les luttes collectives pourront le faire. Et moi, dans cette campagne, je lève le drapeau des luttes collectives.
Madame Arthaud, vous dites dans votre programme que les élus seront révocables à tout instant. Ça veut dire qu'on sera en campagne électorale permanente. N'ayez pas peur que ça crée de l'instabilité.
Pourquoi en campagne permanente?
Il y a 577 députés et à tout instant, tous les 15 jours, ils pourront être révoqués, réélus. C'est pas un problème.
Vous êtes révoqué à partir du moment où vous ne tenez pas vos engagements. Moi, je trouve que ça serait la moindre des choses. Aujourd'hui, on nous explique qu'il faut croire sur parole tous ceux qui nous expliquent « je ferai ci, je ferai ça, votez pour moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». Il faut les croire sur parole. À chaque fois, leurs promesses, quand elles étaient favorables aux plus pauvres, aux travailleurs, aux retraités, elles sont allées à la poubelle. En très peu de temps. Donc il ne faut pas croire à toutes ces promesses. Donc oui, bien sûr, il faudrait une révocabilité. Et celui qui renie ses promesses, qui renie ses engagements, eh bien, il devrait être démis.
Une question importante sur l'Europe. Une majorité de candidats, et c'est, ça fait la spécificité de cette élection, prône la sortie de l'euro et le protectionnisme, comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Je l'ai dit, je pense que c'est une diversion. Du protectionnisme, pourquoi? Pour protéger les emplois. Mais une des premières choses pour protéger l'emploi, c'est d'arrêter ces grands groupes qui licencient. Et je ne les entends pas là-dessus s'engager. Ils ne s'engagent pas là-dessus. C'est beaucoup une diversion. C'est une diversion pour justement qu'on regarde l'Europe et puis pour qu'on ne voit pas finalement qu'on est confronté véritablement à une minorité qui tient entre ses mains vraiment les secteurs les plus importants de l'économie et qui les dirige en fonction de leur intérêt individuel, égoïste, et qui fait qu'effectivement on voit ces fortunes s'accumuler à un pôle. Donc il y a un combat à mener contre ces groupes qui sont insatiables, qui n'en ont jamais assez. J'ai parlé des milliards de Sanofi, on pourrait parler de ceux de la BNP Paribas, on pourrait parler de ceux de PSA qui a explosé ses bénéfices et qui encore aujourd'hui dit aux ouvriers, eh bien non, on ne peut vous accorder que 0,6% d'augmentation de salaire. Alors que c'est des salaires qui sont très bas pour des ouvriers qui travaillent en équipe, qui s'usent la santé sur les chaînes de montage. Donc on est confronté à cela. Alors qu'on ne nous fasse pas croire que l'Europe est responsable de tout ça. C'est des politiques patronales.
Madame Artaud, à ce stade de l'émission et de l'interview, nous voudrions, comme nous le faisons avec chacun de nos invités chaque soir, vous poser des questions qui font débat dans la société française, des questions qui reposent sur des principes assez simples auxquels nous vous invitons à répondre brièvement par oui ou par non. Faut-il légaliser le cannabis, Madame Artaud ?
Moi, je suis pour la dépénalisation du cannabis, parce que ça ne marche pas. Maintenant, moi, je milite aussi pour que la jeunesse, elle n'ait pas envie, comme ça, d'essayer de fuir dans des paradis artificiels, que ce soit d'ailleurs le cannabis ou autre, ça peut être l'alcool aussi. Moi, je suis pour qu'elle prenne une part consciente au changement de cette société. Il faut qu'on la change, cette société. Voilà.
Est-ce qu'il faut reconnaître le vote blanc ?
Oui, bien sûr, je pense qu'il faut reconnaître le vote blanc. Moi-même, ça m'est arrivé de voter blanc et ça m'arrivera peut-être demain de voter blanc. Mais là, dans cette campagne, au premier tour, il vaut mieux voter rouge, voter pour le camp des travailleurs.
Faut-il aller plus loin sur la question de l'euthanasie et autoriser, légaliser ce qu'on appelle le suicide assisté ?
Oui, moi je suis favorable à ce qu'on aille plus loin. Il faut bien sûr l'encadrer, il faut être prudent. Bon, on sait qu'il peut y avoir aussi des enjeux financiers, d'héritage, donc il faut être prudent. Mais moi je suis pour le droit de mourir dans la dignité et que effectivement ce soit le choix de la première personne concernée.
Est-ce qu'il faut interdire les signes religieux ostentatoires dans la rue, dans l'espace public ?
Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une proposition d'une des candidates.
Est-ce qu'on va détruire le Sacré-Cœur, par exemple ? Parce que ça, c'est un signe ostentatoire dans l'espace public, je crois.
Mais ce n'est pas un être vivant, c'est un monument.
Notre-Dame de... Oui, vous parlez de signes ostentatoires.
Non, sur des personnes.
C'est la question. Ah, sur des personnes.
Oui, dans la rue.
En tout cas, je peux vous dire que des signes ostentatoires, on a construit une cathédrale orthodoxe, pas loin de la Tour Eiffel, il n'y a pas bien longtemps, donc il y en a pas mal. Parce que moi, je n'ai d'intérêt dans aucune religion. Voilà, moi, je ne crois pas en Dieu, je crois dans l'humanité, dans ses dans ces immenses possibilités, justement, de vivre dignement. Mais je vois très bien que ce genre de débat est instrumentalisé. La laïcité, aujourd'hui, est instrumentalisée, effectivement, pour distiller le poison contre les musulmans, contre les immigrés. Et ça, moi, je ne l'accepte pas.
Nous allons vous poser des questions très personnelles. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. À vos yeux, quelle est votre principale qualité et votre point faible ?
Ma qualité, je pense que c'est d'être engagée. Voilà, d'être engagée du côté de ceux du côté des travailleurs, ceux qui changeront et transformeront la société demain, j'en suis sûre.
Et votre point faible ?
Bon, mon point faible, mon défaut, au quotidien, je suis pas très commode à vivre. Voilà.
Y a-t-il, Nathalie Arthaud, dans votre panthéon politique, un homme ou une femme qui fasse figure de modèle ?
Tous ceux qui se sont battus. Tous ceux qui sont battus, vous savez, ça peut remonter à Spartacus, on peut passer par la Commune de Paris, Louise Michel, on peut Robespierre, les révolutionnaires de la Révolution française, tous ceux qui se battent. Rosa Parks, la première à s'installer devant, dans le bus, voilà, tous ceux qui se battent, qui se disent, voilà, nous on existe, on a des droits et on se battra pour les imposer.
Alors on ne vous demande pas si vous vivrez à l'Élysée ou ce que vous en ferez puisque vous avez répondu à cette question, mais est-ce que effectivement vous vivrez aux alentours de l'Élysée ou vous resterez dans votre appartement
Moi, si j'avais des responsabilités, effectivement, je continuerais de vivre dans mon appartement en Seine-Saint-Denis. Voilà, je ne changerais rien à ma vie. Et je pense qu'il ne faudrait pas, voilà, un salaire, on l'a dit, salaire moyen.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir accepté notre invitation.